Chapitre 12. L'éclat d'un instant. Accompagné par 30 aïels, tous armés d'un arc, Birgit fonçait dans la forêt. Le groupe faisait du bruit, le contraire aurait été impossible, mais les guerriers du désert réussissaient à rester incroyablement discrets. Sautant par-dessus les troncs quand ils le pouvaient, ils les longeaient dès que ce n'était pas faisable, ou trouvaient des pierres pour prendre appui et les enjamber sans risquer de trébucher. Pareillement, ils esquivaient en souplesse les branches basses, telles des danseurs.
« Ici !»
lança à mi-voix Birgit, lorsqu'elle eut fait le tour d'une colline déchiquetée. Par bonheur, la grotte était toujours là, dissimulée par des broussailles. À côté, un cours d'eau coulait paisiblement. Les aïels le traversèrent, l'onde éliminant toute trace olfactive de leur passage. Deux des hommes continuèrent sur l'étroite piste, en faisant plus de bruit et en s'accrochant à toutes les branches. Birgit, elle, alla rejoindre les guerriers qui s'étaient cachés dans la caverne obscure, où l'air sentait la terre meuble et la mousse. Des siècles plus tôt, quand elle vivait dans cette forêt, hors la loi de son état, s'était-elle cachée dans cette caverne? Eh bien, elle n'en savait rien. De ses vies antérieures, elle ne se rappelait presque rien, à part peut-être des bribes de son séjour dans le monde des rêves, avant qu'elle soit ramenée dans la réalité par Mogedienne, un processus qui n'avait rien eu de naturel. Birgit considéra sa situation avec amertume. Renaître, toute nouvelle et toute fraîche, c'était plutôt bien, mais se voir arracher ses souvenirs, l'essence de sa personne, ça, c'était une autre affaire. Si ses réminiscences du monde des rêves s'effaçaient aussi, oublierait-elle complètement Gaïdal? Et finirait-elle par s'oublier elle-même?
C'est l'ultime bataille, pauvre idiote! Qui se soucie de tout ça?
Eh bien, elle, pardi. Un point en particulier l'obsédait. Et si, en étant chassée du monde des rêves, elle avait aussi été coupée du corps de Valère? Hélas, elle ne savait même pas si c'était possible. Pour le dire, elle n'avait plus assez de souvenirs. Mais si la réponse était positive, alors elle aurait perdu Gaïdal pour toujours. Devant la grotte, des feuilles bruissaient et des brindilles craquaient. Ces sons étaient si forts qu'on eût dit que 1000 soldats au moins défilaient le long de la cachette. Mais les Trollocs, elle le savait, étaient à peine 50. Cela dit, l'infériorité numérique restait du côté de son groupe. Pourtant, elle ne s'inquiétait pas. Même si elle affirmait devant Elaine ne pas connaître grand-chose à l'art de la guerre, se tapir dans une grotte avec des compagnons bien entraînés, elle l'avait déjà fait. Des dizaines de fois, voire des centaines. Avec ce brouillard dans sa tête, elle n'aurait su le dire. Quand les monstres furent tous passés, la championne et ses aïels sortirent de leur cachette. Déjà, les Trollocs s'engageaient sur la piste créée par les deux guerriers maladroits. Birgit tira flèche sur flèche, abattant des monstres avant que leurs congénères aient le temps de réagir. Mais les Trollocs ne crevaient pas facilement. Souvent, ils pouvaient encaisser deux ou trois flèches avant de ralentir. En tout cas, tant qu'on ratait leurs yeux ou leurs gorges. Raté, Birgit? Ce mot ne faisait pas partie de son vocabulaire. Sous ses flèches, les Trollocs tombaient comme des quilles. La route qui s'éloignait de la grotte étant en pente, chaque nouvelle charogne devenait un obstacle à escalader pour tenter d'atteindre l'archère. De 50, les monstres passèrent à 30 en un temps record. Alors que les survivants montaient à l'assaut, la moitié des aïels brandirent leurs lances pour les affronter. Avec l'autre moitié, Birgit fit quelques pas sur la route, histoire de prendre à revers les assaillants. 30 devinrent 20, puis très rapidement 10. Ces monstres-là tentèrent de fuir, mais il fut facile de les rattraper. Un coup dans les jambes ou sur la nuque, une lourde chute de balourd, et la danse des lances pour les achever. 10 aïels sillonnèrent le champ de cadavres, embrochant les morts pour éviter toute mauvaise surprise. D'autres se chargèrent de la récupération des flèches. Nichil et Lundin, les deux aïels que Birgit désigna, se joignirent à elle pour explorer le secteur. Cette forêt parut familière à la championne, tout comme le sol sous ses pas. À cause de ses anciennes vies oubliées? Non, pas vraiment. Durant les siècles passés en Tel Aranriod, Gaïdal et elle avaient longtemps vécu dans des bois très semblables. Elle se souvint des caresses de son compagnon sur ses joues, sa gorge, sa nuque.
« Je ne peux pas perdre ça !»
pensa-t-elle au bord de la panique.
« Lumière, je ne peux pas !»
Mais que lui arrivait-il? Très vaguement, elle se souvenait d'une conversation. Sur quel sujet? Avec qui? Pas moyen de se le rappeler. Les héros ne pouvaient pas être coupés du corps, pas vrai?
Aile de Faucon saurait peut-être. Elle devrait l'interroger. Sauf si elle l'avait déjà fait.
Que la lumière me brûle!
Des mouvements entre les arbres ramenèrent Birgit au présent. Très près d'elle, des broussailles venaient de frémir. Dès le premier son, Nichil et Lundin s'étaient comme volatilisés. Bon sang, ils étaient sacrément doués. Birgit eut besoin d'un moment pour les repérer au milieu des herbes hautes. La championne leva un index, se désigna elle-même, puis montra la zone droit devant elle. Traduction, vous me couvrez et je me charge du reste. Après ça, Birgit se mit en mouvement sans faire le moindre bruit. Ses fichus aïels verraient qu'ils n'étaient pas les seuls à savoir échapper aux patrouilles. De plus, c'était sa forêt. Une bande de guerriers du désert n'allait quand même pas lui en remontrer. La championne avança furtivement, sans se frotter au buisson d'épineux ratatiné. N'en voyait-on pas plus que d'habitude ces derniers temps? Il semblait compter parmi les rares végétaux qui n'avaient pas complètement disparu. Du sol montait une odeur rance qu'on n'aurait pas dû sentir dans une forêt, et qui était elle-même couverte par la puanteur de la mort et de la pourriture. Birgit se fraya un chemin dans un nouveau champ de cadavres. Sur ces trolloques-là, le sang était coagulé, mort depuis des jours. Elaine ordonnait à ses soldats de ramener les dépouilles de leurs compagnons. Dans le bois de Brahem, des milliers de trolloques grouillaient comme de la vermine. La reine entendait qu'ils voient uniquement des charognes de monstres, histoire de les effrayer. Entendant des bruits, Birgit avança dans leur direction. Bientôt, elle vit de hautes silhouettes approcher dans la pénombre. Des trolloques, qui humaient l'air comme des chiens. Les créatures de ténèbres ne sortaient jamais du bois. Sur la route, elle le savait, les dragons représentaient un piège mortel. Le plan d'Elaine reposait sur des commandos comme celui que dirigeait Birgit. Des maraudeurs chargés de harceler les monstres, de les forcer à se montrer et, surtout, de les massacrer. Le groupe que venait de repérer Birgit était trop gros pour ses aïels. Faisant signe aux guerriers de la suivre, elle se replia vers le camp. Après son fiasco contre Taïm, Rand se réfugia dans ses rêves. Il trouva aisément sa vallée de la paix, flanquée de cerisiers dont le parfum embaumait l'air. Avec leurs fleurs d'un blanc tirant un peu sur le rose, ces arbres magnifiques semblaient en flammes. Rand portait une tenue toute simple de deux rivières. Après des mois passés dans des vêtements de roi aux couleurs vives et aux riches textures, le pantalon de laine et la chemise de lin lui parurent hautement confortables. À ses pieds, il se dota de solides bottes, semblables à celles qu'il portait dans sa jeunesse. Dedans, il se sentait mieux que dans n'importe quelle paire neuve, si magnifique soit-elle. Mais il n'avait plus le droit de porter des bottes pareilles. Au moindre signe d'usure, un serviteur se chargeait d'éliminer celles auxquelles il commençait à peine à s'habituer. Au milieu des collines de son rêve, le dragon fit apparaître un bâton de marche dans sa main intacte. Puis il se mit en route vers les montagnes, dans le lointain. Ce paysage n'était plus la réplique d'un lieu réel. Il l'avait créé à partir de ses souvenirs et de ses rêves, mélangeant une sensation de familiarité à l'excitation de l'inconnu. Dans l'air, on captait une odeur de sève et de feuilles. Au milieu des broussailles, des animaux apparaissaient fugitivement, et au loin, un faucon criait. Loustérine savait générer des fragments de rêves comme celui-ci. Même s'il n'était pas un rêveur, la majorité des Aes Sedai des deux sexes, en son temps, étaient capables d'utiliser tel Aran Riot d'une manière ou d'une autre. Par exemple, quand il s'agissait de se découper une tranche de songe pour soi-même, un paradis mental privé, mieux contrôlé que les rêves ordinaires. Ensuite, il suffisait de savoir entrer dans ce cocon quand on méditait. Un moyen de reposer son corps presque aussi efficace que le bon vieux sommeil. Loustérine savait ça, oui, et même beaucoup plus. Par exemple, comment entrer dans l'esprit de quelqu'un qui s'introduisait dans le fragment? Ou comment savoir que quelqu'un avait envahi ses rêves? Ou même de quelle manière les faire voir aux autres? Loustérine adorait accumuler des connaissances. Un peu comme un voyageur qui veut avoir dans son sac à dos tout ce qui peut se révéler d'une certaine utilité. Mais Loustérine avait très rarement manié ses outils, les laissant dans un coin de son esprit, où il se couvrait de poussière. Les choses auraient-elles tourné différemment s'il avait pris le temps, chaque nuit, de se promener dans une vallée paisible comme celle-là? Rand n'en savait rien. De plus, pour être honnête, cette vallée n'était plus sûre. Avisant une grotte sur sa gauche, il s'avisa qu'il ne l'avait jamais placée là. Encore une tentative pour le piéger signée Moridin? Sans même regarder, Rand passa devant le piège probable. À présent, la forêt semblait moins vivante qu'un peu plus tôt. Rand continua de marcher en essayant d'imposer sa volonté à cette terre onirique. Mais il ne s'était pas assez entraîné pour ça. Inexorablement, la forêt se ternit, devenant grisâtre. La grotte réapparut, et Rand s'immobilisa devant l'entrée. Un air froid sentant la moisissure vint lui cingler le visage. Posant son bâton, le dragon entra dans la caverne. Pour y voir clair, il invoqua un globe lumineux, qu'il fit léviter au-dessus de sa tête. La lueur blanc et bleu se reflétait sur la roche humide, brillant quand elle rencontrait des bosses ou des fissures. Du plus profond de la caverne, des halètements suivis de cris montèrent aux oreilles de Rand. Puis il y eut des bruits d'éclaboussures. Même s'il avait deviné de quoi il s'agissait, le dragon continua d'avancer. Il se demandait depuis un moment si elle tenterait de nouveau le coup. Au bout du tunnel, Rand arriva dans une petite salle, peut-être 10 pas de large, où s'ouvrait un bassin parfaitement circulaire dont l'onde aux reflets bleus semblait ne pas avoir de fond. Au centre, une femme en robe blanche luttait pour ne pas sombrer. Flottant sur l'eau, le tissu semblait lui faire comme une corolle, et ses cheveux, bien entendu, étaient aussi mouillés que son visage. Sous le regard de Rand, elle sombra, but la tasse, puis réapparut, haletante.
« Bonjour, Myrine, »
souffla Rand. Il serra le poing. Non, il ne sauterait pas dans l'eau pour la sauver. Dans un fragment de rêve, le bassin pouvait être réel, mais très probablement il symbolisait quelque chose. L'arrivée de Rand semblant la galvaniser, Myrine lutta plus méthodiquement contre l'eau.
« Loustérine !»
lança-t-elle. Haletante, elle s'essuya le front d'un revers de la main. Par la lumière, tant pis pour la paix et l'harmonie. De nouveau, Rand se sentit comme un enfant, un gosse qui prend Berlon pour la plus grande ville du monde. Oui, le visage de cette femme n'était plus le même, mais à ses yeux, l'apparence ne comptait plus. Dans une enveloppe corporelle différente, il avait affaire à la même personne. Parmi les rejetés, seule Lanfear avait choisi elle-même son nouveau nom. Alors, Rand se souvint. Oui, il se souvint. De somptueuses fêtes avec elle à son bras, son rire qui couvrait la musique, leur nuit ensemble. Il ne désirait pas se rappeler ses étreintes avec elle, en partie parce qu'il s'agissait d'une rejetée, mais il n'était pas en son pouvoir de choisir ce qui lui venait à l'esprit. Ses réminiscences de Loustérine se mêlèrent aux siennes, l'époque où il désirait Dame Sélène. Les pulsions désordonnées d'un jeune homme. Ses passions, il ne les éprouvait plus, mais elles s'incrustaient dans sa mémoire.
« Tu peux me libérer, Loustérine !»
lança Myrine.
« Il s'est emparé de moi ! Dois-je t'implorer ? Il s'est emparé de moi !»«
Tu t'es engagé à servir le ténébreux, Myrine, et voilà ta récompense. Tu espères m'inspirer de la pitié ?»
Une forme sombre s'enroula autour des jambes de Lanfear, l'entraînant de nouveau vers le fond. Malgré ce qu'il s'était dit, Rand avança, comme s'il voulait plonger dans le bassin. Il parvint à s'en empêcher. Après un long combat intime, il se sentait enfin entier. Cet accomplissement lui donnait de la force, mais dans sa sérénité se cachait une terrible faiblesse. Celle qu'il redoutait depuis toujours, et que Moiraine avait à juste titre dénoncée, la compassion. Il en avait besoin, comme un homme qui doit avoir une fente pour les yeux. Dans les deux cas, il s'agissait de points faibles exploitables. Il le reconnaissait à présent. Lanfear refit surface, cracha de l'eau et exprima tout son désespoir.
« Dois-je t'implorer ?»«
Je doute que tu en sois capable. »
La rejetée baissa les yeux.
« S'il te plaît, »
murmura-t-elle. Les entrailles de Rand se nouèrent. Pour chercher la lumière, n'avait-il pas lui-même lutté dans les ténèbres ? Ne s'était-il pas accordé une seconde chance ? Devait-il la refuser à quelqu'un d'autre ? Par la lumière, il frissonna en repensant à ce qu'il avait ressenti en maniant le vrai pouvoir. Un mélange de douleur et d'excitation, de toute puissance et d'horreur. Oui, Lanfear s'était donné au ténébreux, mais lui aussi en un sens. Il sonda le regard de Lanfear, ses yeux si familiers. Puis il secoua la tête.
« Myrine, tu es devenue une bien meilleure manipulatrice, mais pas assez bonne pour moi. »
Lanfear se rembrunit. En un clin d'œil, l'eau disparut, remplacée par un sol de pierre. Toujours dans sa robe blanc-argentée, elle s'assit en tailleur, arborant son nouveau visage, mais toujours égale à elle-même.
« Donc, te voilà de retour, »
dit-elle, pas réellement satisfaite. Au moins, je ne suis plus obligé de m'adresser à un simple paysan. C'est une mince consolation.
Rand entra dans la salle. L'Anfear était toujours prisonnière. Autour d'elle, il sentait comme un dôme d'obscurité. Il resta bien entendu à l'extérieur. Le bassin et la noyade, cela dit, n'avaient été que du théâtre. Très fière, l'Anfear ne répugnait pourtant pas à paraître faible quand la situation l'exigeait. S'il avait disposé plutôt des souvenirs de Loustérine, Rand ne se serait jamais laissé abuser si facilement dans le désert des Aiel.
Du coup, dit l'Anfear, je ne dois pas m'adresser à toi comme une demoiselle en quête d'un héros, mais comme une égale qui demande l'asile.
Comme si c'était la cage d'un fauve, Rand fit lentement le tour du dôme de ténèbres.
Une égale ?
Répéta-t-il, souriant.
Quand as-tu jamais considéré quelqu'un comme ton égal, Myrine ? Tu te fiches de ma captivité ? Faux. Elle me serre le cœur, mais pas plus que le jour où tu t'es voué aux ténébreux. Savais-tu que j'étais là quand tu as clamé ta conversion ? Tu ne m'as pas vu, parce que je ne le souhaitais pas. Mais je regardais et j'écoutais. Myrine, tu as juré de me tuer. Crois-tu que je le pensais ?
L'Anfear tourna la tête pour regarder Rand dans les yeux. Si elle le pensait, non, sans doute pas. À l'époque, en tout cas. L'Anfear ne tuait pas les gens qui pouvaient lui être utiles, et elle l'avait toujours compté parmi ceux-là.
Nous partagions quelque chose de spécial, jadis,
dit-elle.
Tu étais mon...
Pour toi, j'étais un trophée,
coupa Rand. Pour se calmer, il inspira à fond, mais garder son sang-froid était si difficile face à elle.
Le passé est révolu, et je ne m'en soucie plus. J'aurai plaisir à te donner une seconde chance de marcher sous la lumière. Hélas, je te connais. Tu recommences, voilà tout. Tous, autant que nous sommes, y compris le ténébreux, tu nous manipules. La lumière, tu n'en as rien à faire. Tout ce qui t'intéresse, Myrine, c'est le pouvoir. Tu veux me faire gober que tu as changé ?
Tu me connais bien moins que tu le crois,
dit l'Anfear en suivant des yeux Rand, qui faisait toujours le tour de sa prison.
En fait, tu ne m'as jamais connu.
Alors prouve-moi ta bonne foi, Myrine,
dit Rand en s'immobilisant.
Montre-moi ton esprit. Ouvre-le-moi dans sa totalité. Laisse-moi te contrôler absolument dans ce lieu où les rêves sont domestiqués. Si tes intentions sont pures, je te libérerai. Ce que tu demandes est interdit. Depuis quand ça t'arrête ?
S'esclaffa Rand. L'Anfear sembla réfléchir à la question. Sur un point, elle ne mentait pas. Son incarcération l'inquiétait. Naguère, elle aurait ri de la proposition de Rand. Mais comme ils étaient dans un lieu qu'il contrôlait, à l'évidence, si elle acceptait, il pourrait plonger dans son esprit et le décortiquer.
« Je... »
commença-t-elle. Rand avança jusqu'à la lisière invisible de la prison. Ce tremblement dans la voix de Myrine, ce n'était pas un jeu ou une ruse. La première émotion sincère qu'il sentait chez elle.
« Par la lumière, elle va le faire pour de bon ?»«
Je ne peux pas, Rand. Je ne peux pas. »
Rand expira à fond. Puis il s'avisa que sa main tremblait. Si près de la lumière, comme un félin sauvage dans la nuit qui rôde autour d'une étable éclairée par des torches. Rand découvrit qu'il était furieux, plus encore qu'avant. Elle faisait toujours ça. Manquer basculer du bon côté, mais finir par choisir son propre chemin.
« J'en ai fini avec toi, Myrine, »
dit Rand. Il se détourna et sortit de la salle.
« Pour toujours. »«
Tu m'as mal comprise !»
cria l'Anfear.
« Tu m'as toujours mal comprise. Montrerais-tu ton esprit à quelqu'un de cette façon-là ? Moi, j'en suis incapable, après avoir été si souvent giflé par ceux en qui j'aurais dû avoir confiance, trahi par les gens qui étaient censés m'aimer. »
Rand se retourna.
« Et tu m'en rends responsable ?»
L'Anfear ne détourna pas les yeux. Elle resta assise, bien droite, comme si sa prison était un trône.
« Tu te souviens de tout ça ainsi, pas vrai ?»
fit Rand.
« Tu crois que je t'ai trahi pour elle ? Tu prétendais m'aimer ? Non, je n'ai jamais dit ça, jamais ! Je n'aurais pas pu, car j'ignorais ce qu'était l'amour. Des siècles de vie, et je ne l'avais pas découvert, avant de la rencontrer. »
Rand hésita, puis il continua, sa voix si basse qu'elle ne se répercutait même pas dans la caverne.
« Toi, tu ne l'as jamais connue, pas vrai ? Bien entendu que non. Qui aurais-tu pu aimer ? Pour ton cœur, seul compte le pouvoir que tu convoites. En toi,
il n'y a plus de place pour autre chose. » Rand lâcha la bombe à ses sentiments. Oui, il la lâcha comme Loustérine n'avait jamais pu le faire. Même après avoir découvert Iliéna et compris comment Lanfear l'avait manipulée, il s'en était tenu au mépris et à la haine. « Tu espères m'inspirer de la pitié ?» avait-il demandé un peu plus tôt. Eh bien, c'était ce qu'il éprouvait à présent. De la pitié pour une femme qui n'avait jamais connu l'amour et qui ne se permettrait jamais d'en éprouver. De la pitié pour quelqu'un qui ne pouvait pas choisir un autre camp que le sien, son petit intérêt égoïste.
« Je... »
commença-t-elle. Rand leva la main, puis il s'ouvrit à elle. Ses intentions, ses pensées, sa personnalité... Tout se matérialisa comme un vortex de couleurs, d'émotions et de puissance qui tournait autour de lui. Devant ce spectacle, Lanfear écarquilla les yeux. En cet instant, Rand ne pouvait rien lui cacher. Elle vit ses motivations, ses désirs, ses ambitions pour l'humanité. Ses intentions aussi, aller au mont Chagelgoul pour tuer le Ténébreux. Histoire de laisser derrière lui un monde meilleur que la fois précédente. Révéler tout ça ne l'inquiétait pas. Puisqu'il avait touché le vrai pouvoir, le Ténébreux savait tout de lui. Dans ce qu'il dévoilait, il n'y avait rien de surprenant. Enfin, rien qui aurait dû le paraître. Lanfear en fut pourtant stupéfié. Bouche bée, elle vit la vérité. Au plus profond du dragon, ce n'était pas Loustérine le noyau, mais le berger élevé par Tam. Ses souvenirs et ses sentiments révélés, la vie de Rand se déroula devant Myrin. Pour finir, il lui montra son amour pour Iliéna, comme un merveilleux objet en cristal posé sur une étagère pour être admiré. Puis son amour pour Mine, pour Avienda et pour Elaine. Un immense feu de joie qui réchauffe, qui réconforte et qui sublime la passion. Pas une trace d'amour pour Lanfear dans tout ce qu'il dévoilait. Comme il avait aussi éradiqué le dégoût qu'elle inspirait à Loustérine, elle ne représentait plus rien pour lui. La rejetée poussa un petit cri. Autour de Rand, le vortex se dissipa.
« Je suis navré, » dit-il. « Mais j'étais sincère. J'en ai vraiment fini avec toi, Myrin. Garde la tête baissée pendant la tempête qui arrive. Si je gagne, tu n'auras plus de raison d'avoir peur pour ton âme. Car il ne restera personne pour te tourmenter. »
Rand se détourna de nouveau. Cette fois, il s'en fut, laissant Lanfear sans voix. Le soir, dans le bois de Brahem, était immanquablement accompagné par l'odeur des feux et les grognements des hommes qui s'endormaient péniblement, leur épée à portée de la main. Sans oublier une fraîcheur peu naturelle pour l'été. Perrine sillonnait le camp, passant entre les hommes qui étaient sous ses ordres. Ici, les combats avaient été terribles. Ces gars malmenaient les trolloques, mais il semblait y en avoir toujours plus pour remplacer les morts. Après s'être assuré que ses soldats avaient été bien nourris, que la garde était en place et que tout le monde savait que faire en cas d'attaque nocturne de l'engeance du démon, le jeune seigneur se mit en quête des aïels. Des matriarches, surtout. Même si la majorité s'apprêtait à accompagner Rand au mont Chagelgoul, à cette heure elles attendaient les ordres du dragon, quelques-unes avaient choisi de rester avec lui. Et Dara était du lot. Comme les autres matriarches loyales à Perrine, elle n'obéissait pas à ses ordres. Mais à l'instar de Gaul, elle restait à ses côtés, alors que ses collègues choisissaient un autre chemin. Et elles étaient plusieurs à agir ainsi. Perrine ne leur avait jamais demandé pourquoi. Parce qu'il se fichait de le savoir. Les avoir près de lui était un précieux avantage, et il en concevait de la gratitude. Les sentinelles le laissaient rentrer dans le camp. Très vite, il trouva Edara assise près d'un feu entouré de pierres afin d'empêcher que des étincelles s'envolent. Avec la sécheresse omniprésente, la végétation, ici, pouvait s'embraser plus facilement qu'une grange remplie de paille. La matriarche regarda Perrine alors qu'il s'installait à côté d'elle. Si elle paraissait jeune, cette aïeule diffusait une odeur pleine de patience, d'ouverture d'esprit et de sérénité. La sagesse, en quelque sorte. Sans demander au jeune seigneur pourquoi il voulait la voir, elle attendit qu'il prenne la parole.
« Tu sais marcher dans les rêves ?»
demanda-t-il. Edara le dévisagea à la lueur des flammes. Cette question, devina Perrine, n'était pas celle qu'elle attendait d'un homme, surtout d'un habitant de terre mouillée. Du coup, il fut surpris de l'entendre répondre.
« Non. »
« Mais sais-tu des choses sur ce sujet ?»«
Un peu, oui. »«
Je veux savoir comment entrer dans le monde des rêves. Pas en esprit, pendant mon sommeil, mais en chair et en os. Tu crois que c'est possible ?»
Edara prit une grande inspiration.
« N'y pense même pas, Perrine Aibara. C'est maléfique. »
Le jeune seigneur fronça les sourcils. Dans le rêve des loups, Tel Aran Riod, en réalité, la force était une question délicate. Plus violemment il y faisait intrusion, plus solidement il y était présent, trouvant alors facile de modifier des choses. En d'autres termes, de manipuler cet univers. Mais il y avait un danger. S'il s'y prenait trop brusquement, il risquait de se couper de son corps endormi dans le monde réel. Apparemment, Tueur ne s'en souciait pas. Dans le rêve, il était puissant, trop pour ne pas y être présent physiquement. Perrine l'aurait juré.
« Tueur, notre combat ne finira pas tant que tu ne seras pas devenu la proie. Chasseur de loups, je t'éliminerai. »«
Malgré les honneurs dont tu es couvert, » dit Edara, « tu restes un enfant sur bien des points. »
Sans que ça le ravisse pour autant, Perrine avait pris l'habitude que des femmes qui semblaient à peine plus âgées que lui le sermonnent sur ce ton.
« Aucune personne capable de marcher dans les rêves ne t'enseignera ça. C'est le mal à l'état pur.
Pourquoi ?»«
Parce que entrer en chair et en os dans le monde des rêves te prive d'une partie de ce qui te rend humain. Mais il y a pire. Si tu meurs dans ces conditions, tu risques d'être parti pour l'éternité. Pas de renaissance, Perrine Aibara. Le fil que tu es dans la trame peut disparaître. Veux-tu être détruit ? Ce n'est pas un risque à prendre. »«
Les serviteurs des ténèbres le font, Edara. » Ils acceptent le danger afin de dominer le monde. Pour les arrêter, nous devons les imiter. »
La matriarche siffla entre ses dents et secoua la tête.
« Ne te coupe pas un pied de peur qu'un serpent le morde, Perrine Aibara. Parce que tu crains quelque chose qui semble pire, ne commets pas une erreur fatale. Voilà tout ce que j'ai à dire sur le sujet. »
La matriarche se leva et laissa Perrine seule devant le feu.